Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9. Vous avez reconnu notre générique. Il s'agit d'un extrait de Roméo Juliette de Prokofiev avec Andriy Gavrilov au piano. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, nous allons faire une émission spéciale Théâtre des 13 vents. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Jean-Marie Besset, bonjour.
Bonjour.
Et Gilbert Dévaux.
Bonjour.
Bonjour. Ça fait quelque temps qu'on ne vous avait pas reçu à cette antenne. Il se passe des choses ces temps-ci au 13 vents. Il y a eu quelques articles que vous avez pu lire dans la presse. Donc Jean-Marie Besset, vous avez été nommé par Frédéric Mitterrand en novembre 2009 à la tête des 13 vents. Oui. Et là, on vient d'apprendre que votre mandat n'est pas renouvelé. C'est un peu une première.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été une annonce très brutale qui m'a été signifiée à la fois par Michel Ourrier, qui est le directeur général de la création artistique. Déjà, vous apprécierez le terme, direction générale de la création artistique. Est-ce que la création artistique ne devrait pas être le fait des artistes et pas d'une direction générale? Donc, qui m'a signifié, sans plus de raison que cela, le 21 mars dernier, qu'il ne souhaitait pas me reconduire pour un deuxième mandat. C'est la première fois que ça se passe.
Oui, généralement, quand on fait un premier mandat, on est reconduit pour un deuxième mandat, parce que c'est un mandat de 3 ans.
Madame Filippetti elle-même a affirmé dans le Figaro début avril qu'elle souhaitait que les directeurs de CDN fassent deux ou trois mandats. Elle a immédiatement ajouté un maximum qui n'est pas un minimum. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, parce que soit on souhaite qu'il fasse 3 mandats, soit on ne le souhaite pas, mais est-ce que à ce moment-là... Enfin bon, bref, en tout cas, depuis 10 ans, il y a 40 centres dramatiques nationaux en France. Depuis 10 ans, la question s'est posée à peu près 150 fois, vous voyez, d'être renouvelée pour un deuxième ou un troisième mandat. Et chaque fois, la réponse a été oui. Donc dans mon cas, elle a été non. Donc j'ai été écrasé par une espèce d'immense sentiment d'injustice. Et...
Mais c'est vrai aussi que votre nomination en 2009 avait été assez controversée aussi, si je ne me trompe pas.
Oui, mais depuis, on a fait du travail.
Bien sûr.
Gilbert Dévaux et moi, nous avons fait quand même beaucoup de travail. En 2009, c'était une... Je ne sais pas très bien pourquoi il y avait une bronca, à vrai dire. Mais vous savez, j'ai été très pédagogique. Enfin, vous étiez là, Florent, en 2009... Je suis allé rencontrer mes opposants, leur dire qu'ils ne me connaissaient pas. Mmh. En fait, l'opposition que je suscite est surtout due au fait de gens qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais vu aucune de mes pièces, aucun de nos spectacles, ni jamais lu aucune de mes pièces. Donc il y a des a priori comme ça.
Le fait aussi d'être un auteur qui soit nommé...
Dans le texte de décentralisation dramatique, c'est quand même le premier intervenant, le premier artiste, la première catégorie d'artistes nommée. C'est-à-dire, on dit bien, les CDN, c'est quand même une spécificité française, je crois, l'idée de mettre un auteur à la tête d'un artiste à la tête d'un théâtre, dans ce réseau des CDN. C'est quand même une idée de Malraux qui a été reprise par le texte de 72, puis ensuite réaffirmée par le texte de 95. Et chaque fois, c'est quand même formidable qu'on confie à cet instrument de théâtre public à un artiste. Donc, un artiste de la scène. Donc, ça peut être en effet un metteur en scène, un auteur, un adaptateur. Mais dans le texte, c'est l'auteur qui est mentionné en premier, oui. Même s'il y en a très peu. Voilà.
Moi, je me souviens en 2009, donc, quand vous avez été nommé, moi, je n'ai pas voulu rentrer dans la polémique. Je me suis dit, on va voir sur pièce, on va voir la programmation et on jugera sur pièce. Donc, vous m'avez vu très souvent au Théâtre des 13 vents. Je crois que depuis 3 ans, j'ai presque tout vu. Hein. Donc, il y a des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont point plu, mais c'est un petit peu normal. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche exactement?
Rien. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, vous savez. Non, on me reproche rien d'objectif. On ne peut pas nous reprocher ni la gestion. Les comptes sont en ordre. Aucun déficit. Le public reste constant. Il s'est renouvelé, mais ça a un peu changé, mais c'est normal. Les habitudes de fréquentation des théâtres changent, pas seulement au Théâtre des 13 vents, mais partout dans le monde. L'idée d'abonner est une idée qui, je crois, est une idée... peut-être un peu moins urgente aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 50 ans. Je pense qu'on est dans un théâtre qui est où les gens réservent de plus en plus par Internet, se décident au dernier moment. Donc les habitudes changent, quoi. Voilà. Mais donc, il n'y a rien à nous reprocher ni sur la fréquentation, ni sur les comptes, ni sur la programmation. On nous reproche, semble-t-il, nos créations qui seraient pas dignes de l'esprit du service public du théâtre.
Pourtant,
alors
la
là, après,
création...
on entre, vous voyez, dans la guerre des goûts. Alors oui. Là, la guerre des goûts, ça ne veut plus rien dire. Parce que moi, je pense au contraire que le théâtre public est divers, a une diversité, comme d'ailleurs le théâtre privé est divers aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du père. Je pense que la note qu'on commençait à faire entendre était originale. Et le fait de nous remercier comme ça constituerait une fermeture. Donc, mais les cartes, enfin, le jeu n'est pas encore joué, quoi. Je veux dire, puisque comme Madame le ministre refusait de me recevoir et comme on avait convoqué un comité de suivi pour organiser ma succession, je n'ai pas eu d'autre solution que, comme j'étais traité injustement, de faire appel à la justice, justement. Et donc, j'ai lancé une action, j'ai demandé une requête en référé. Suspension de la décision ministérielle auprès du Conseil d'État, qui m'a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier. Et là, avant de faire appel de nouveau de ce jugement au Conseil d'État, de revenir au Conseil d'État, donc j'ai...
Donc il y a déjà eu un premier jugement ?
Il y a eu une... Ma requête a été rejetée parce que la condition d'urgence... Enfin, après, c'est très technique, vous savez, en droit, donc c'est un peu compliqué... le Conseil d'État avait jugé que j'étais un agent public. C'était la cessation d'activité d'un agent public. Le tribunal de Montpellier n'a pas voulu tenir compte de cette idée du Conseil d'État. Il y a un flou juridique sur les directeurs de CDN. C'est un peu compliqué. On a le statut de gérant d'une SARL. Enfin, l'État est en train de sortir de tout ça. Enfin bon, moi, j'ai proposé au ministère actuellement, au stade où on en est, une négociation, une sortie honorable de cette crise. J'ai proposé qu'on nous laisse un an de plus à Montpellier, c'est-à-dire jusqu'en décembre 14, en échange de quoi, moi, je retirerai toute action en justice. Et je trouve que ce serait une solution, la moins injuste possible, puisque ça permettrait quand même d'avoir tenu 5 ans, de programmer 5 saisons. Ça commence à ressembler à quelque chose.
Alors concrètement, pour nos auditeurs, quand on fait donc un référé comme ça, ça arrête toute la procédure de nomination d'un nouveau directeur ?
Oui, c'est-à-dire ça l'arrête de fait, puisque c'est normalement au directeur... C'est un peu compliqué ce système, parce que c'est normalement au directeur du théâtre d'organiser sa succession. Mais c'est curieux parce qu'un gérant d'une SARL qui organise sa succession, ça se fait tous les jours, sauf que c'est lui qui décide après. Mmh. Là, ce n'est pas moi qui ai la décision, puisque ce sont les tutelles. Je ne suis pas dans le jury qui va décider de mon successeur. Donc,
comment ça marche une nomination ? Qui est-ce qui décide ? Quels sont les intervenants ?
Il y a deux choses. Il y a d'une part le ministre de la Culture qui vous confie une mission de décentralisation dramatique. Ça, c'est la décision qui est intervenue. Qu'a pris Frédéric Mitterrand en novembre 2009. Et ensuite, pour mener à bien cette mission de décentralisation dramatique, vous signez un contrat de décentralisation dramatique qui vous donne le statut. Et moi, j'ai été très, 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 très surpris et étonné de découvrir que ce contrat avait la forme me conférer le titre de gérant d'une SARL. Donc, j'ai racheté les parts à mon prédécesseur.
Vous avez racheté les parts à votre prédécesseur. Ouais. C'est un peu compliqué pour nous
C'est compliqué de s'y retrouver. C'est pour ça qu'il y a...
Ça n'existe nulle part ailleurs, ce statut.
C'est une façon pour l'État de ne pas instaurer des délégations de services publics, c'est-à-dire de ne pas multiplier les fonctionnaires, en fait. C'est une façon, si vous voulez, de ce statut de SARL. Sauf que depuis quelques années, la Cour européenne s'en est avisée, s'en est inquiétée. Le Sénat français s'en est inquiété aussi. Donc ce statut de SARL pour les CDN n'est plus tenable. Donc ils veulent passer à des EPCC.
Mais il faut aussi dire que ça a des avantages. Oui. Parce que ça permet d'avoir des unités de production indépendantes... encadré par ce contrat de décentralisation. Donc, c'est le contrat de décentralisation, il fixe à la fois des objectifs pour le directeur en termes de fréquentation, en termes de projets artistiques, en termes d'activité, en termes d'action pédagogique, etc., etc. Et le contrat, il est, il est énorme. Mmh. Et d'ailleurs, c'est bien d'être deux pour arriver à tout faire, parce que si vous voulez être un bon directeur de CDN, il faut être à la fois un immense artiste reconnu internationalement et en même temps un animateur socioculturel qui va dans des lycées parler de son travail, un metteur en scène qui travaille avec des amateurs, un bon gestionnaire, un chef d'entreprise. Enfin, le spectre est très très large et la mission elle est complexe, tellement le champ des missions est différente. Voilà. Mais ça, c'est pour ça que souvent les directeurs de CDN sont épaulés par un secrétaire général, un directeur adjoint ou un co-directeur. Voilà.
Et c'est vrai que nous, en tant que spectateurs et auditeurs, on a un peu de mal à s'y retrouver. C'est quoi, par exemple, la différence entre un centre dramatique national et une scène nationale ?
Mais une scène nationale n'a pas, en principe, vocation de produire des spectacles.
D'accord. Et c'est pas dirigé par des artistes.
Et c'est pas dirigé par un artiste, c'est dirigé par un intendant, c'est-à-dire un organisateur de spectacle, un producteur de spectacle.
Et au niveau juridique, ça n'a pas du tout le même statut qu'un centre dramatique national.
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout.
Mais c'est vrai que quand on est du côté des spectateurs, on a parfois un petit peu de mal à s'y retrouver.
Ah bah oui, non, mais le CDN, est, par exemple en Languedoc-Roussillon, c'est l'unique CDN, centre dramatique national de la région Languedoc-Roussillon. Donc c'est donc le vaisseau amiral du théâtre. Et c'est lui qui donne normalement le « là ».
Voilà. On parlait des impératifs que doit avoir un centre dramatique national. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur ces impératifs ?
Ah ben, il y a beaucoup de missions.
Je sais qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de missions.
Ben moi, c'est un projet qui a été retenu. Le projet, c'était de mettre en avant les auteurs francophones vivants. Hein, voilà, c'était l'essentiel du projet, de revisiter des classiques parfois oubliés, de remettre à l'honneur l'art de la comédie, puisque voilà, alors par exemple, une des choses qui nous est reprochée actuellement, c'est d'avoir mis sur pied ce spectacle d'Oscar Wilde.
L'importance d'être sérieux,
qui en ce moment remporte un vif succès au Théâtre Montparnasse à Paris. Il aura fait 100 représentations supplémentaires, ce qui est une diffusion exceptionnelle pour le CDN. Mais par exemple, dans le théâtre public, si vous voulez, on aurait le droit actuellement en France de faire Fedot et la Biche, mais pas Wilde encore. C'est tout à fait...
Pourquoi pas Wilde ?
Ah ben, je ne sais pas pourquoi pas Wilde. Demandez-le aux inspecteurs du ministère de la Culture. Si vous voulez, il y a une espèce d'art officiel, vous voyez, qui s'esquisse. Et moi, c'est vrai que je suis très, très, en ce moment, en conflit avec cet art officiel, avec l'art officiel des inspecteurs du ministère de la Culture. Je ne vois pas les choses du tout de la même façon qu'eux. Peut-être parce que ma formation s'est faite dans les pays anglo-saxons. Moi, j'ai vécu 2 ans à Londres, j'ai vécu 12 ans à New York, et je ne vois pas les choses dans le théâtre public français de
parce
la
que
même
Wilde,
façon.
Wilde, c'est quand même un classique.
C'est un classique, mais si vous regardez bien, il n'est pas joué dans le théâtre public français.
C'est tout un tas de choses qui m'échappent un petit peu, parce que...
Eh ben oui, mais...
Oui, mais c'était pareil pour Fedot il y a 30 ans. Ouais, il y a 30 ans, 30-40 ans, Fedot était relégué dans le théâtre privé, et puis il a suffi que Françon s'y intéresse.
C'est pareil aussi pour Tennessee Williams, autre auteur qu'on a défendu, et c'est pareil pour Édouard Albee, autre auteur qu'on va défendre en début de saison prochaine.
Je vois que Tito est arrivé. On va faire une petite pause musicale avant de se retrouver. Eh bien, puisqu'on parlait de la grande famille du théâtre, moi j'ai choisi Nancy Sinatra, Bang Bang.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down.
Et vous êtes toujours sur Divergence FM, le 93.9. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Nancy Sinatra, Bang Bang, un extrait de la bande originale du film Kill Bill. Je suis toujours avec Jean-Marie Besset et Gilbert Desvaux, et nous parlons donc du théâtre des 13 vents, de ce qui se
bang
passe.
Bang
Bang. Bang Bang. Ça me semblait convenir assez à la situation.
Oui.
Et donc, sur le non-renouvellement de votre mandat à la tête des 13 vents. Et Tito Livio vient de nous rejoindre. Bonjour Tito.
Bonjour.
Bonjour Tito.
Alors, on était en train d'expliquer ce que c'était qu'un CDN, comment ça fonctionnait, comment procédaient les nominations. Donc, ce n'est pas très simple, nous, pour s'y retrouver. On parlait d'Oscar Wilde.
Des missions. Alors, je vous expliquais les missions. Et en fait, à part les missions de création, on a évidemment des missions de diffusion, de diffuser ces spectacles, les productions maison, si vous voulez, qui donnent donc... qui ont donné depuis 3 ans, je trouve, une touche un peu différente, une note un peu différente dans le paysage du théâtre public français à partir de Montpellier, donc en renouvellement. Et puis, comme on est très attentif aux auteurs, on a mis sur pied un comité de lecture d'un genre nouveau qui s'appelle le Grand Oral de la Pile, ou GOP, qui a quand même aussi fait des... Enfin bon, voilà, qui est une innovation importante, je crois, à Montpellier. Ça nous a permis de découvrir notamment Régis de Martin-Donos, un tout jeune auteur qui vient d'avoir 25 ans, mais qui en avait 23 à l'époque où il est arrivé. Et donc, je pense que c'est un nom, Régis de Martin-Donos, avec qui il va falloir compter dans le théâtre français des 10 années qui viennent. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis, par ailleurs, on a beaucoup de missions aussi dans les... ce qu'on appelle les publics empêchés. Moi, ça fait 3 ans que je mène un atelier à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. La dernière séance était hier. C'est une chose qui m'a beaucoup apporté, mais je crois qu'il apporte pas mal aussi à la prison. D'ailleurs, au point que le directeur de la maison d'arrêt est très, très triste du sort que veut me faire le ministère de la Culture. Et ils ont écrit beaucoup, les détenus aussi, d'ailleurs. Mmh. Et puis, on est aussi présent dans les maisons pour tous, dans les quartiers, auprès des gens qui, finalement, par intimidation, ne font pas la démarche d'aller au théâtre des 13 vents. Hein. C'est un peu intimidant, toujours, la culture. C'est quand même un apanage, souvent, de la bourgeoisie, même de la petite bourgeoisie.
Mais pourtant, voilà. Le théâtre des 13 vents, c'est un endroit où on se sent bien.
Ah ben bien sûr,
je trouve. Chaque fois que j'y vais, j'ai un peu l'impression d'aller à la maison.
Je trouve, mais vous savez, pour beaucoup de gens, moi, un de nos titres de gloire depuis ces 3 ans, c'est par exemple d'avoir programmé la pièce de Rayana, « À mon âge, je me cache encore pour fumer », parce que c'était la première fois qu'on voyait des femmes du quartier de la Paillade, des femmes parfois voilées, qui sont venus assister à cette pièce. Et c'était plein, et c'était vibrant, d'un public très comme ça... à majorité féminin, à majorité immigrée, et il y avait des you-you à la fin du spectacle, c'était incroyable. Et c'était Rayana, une pièce qui rassemblait une dizaine de femmes dans un sauna en Algérie, avec à la porte les frères musulmans qui tambourinaient pour assassiner une fille qui avait eu un enfant hors mariage, donc une pièce très très dans l'actualité, dans la politique actuelle. Dans une narration très claire et presque simple, vous voyez, candide, tout à fait le genre de pièce que détestent les inspecteurs du ministère de la Culture. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est tout à fait dans leur esprit, c'est pas ça le théâtre, quoi. Vous voyez, c'est des gens, je crois, très, très intellectuels et très, très fatigués qui ne supportent pas des spectacles rassembleurs comme celui-là. Et pour moi, ça a été un des événements dont je suis le plus fier, finalement. Parce qu'on parle beaucoup de théâtre populaire, si vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est que le théâtre populaire, je veux dire. Moi, j'étais à l'inauguration du TNP à Villeurbanne. Je vous garantis, il n'y avait pas un noir ni un arabe dans la salle. Comment ça se fait? Il est où? Alors, ça veut dire quoi, le théâtre populaire, dans ces conditions? Il faut quand même que le théâtre public se pose des questions. Pourquoi à Saint-Denis, il n'y a pas un noir dans la salle? Vous savez comment on appelle le TGP de Saint-Denis à Saint-Denis? La maison des Blancs. Bon, alors, c'est quoi?
Là, j'ai une information à apporter parce qu'il y a eu une exception pendant Nordé. Stanislas Nordé, parce vrai. Que moi, j'étais témoin.
Oui, mais c'était il y a quelques années.
Il y a quelques années.
Non, mais je
années.
Vous parle aujourd'hui,
non,
Tito.
Non, mais justement, j'abonde dans votre sens.
Non, on est
parce
revenu
que,
à l'arrière, là.
Parce que, et en plus, vous savez très bien tous les problèmes qu'il a eus. Hein,
oui,
parce que les Parisiens n'ont jamais supporté sa façon de gérer le théâtre et de sa politique, notamment tarifaire, parce qu'on y allait pour 25 francs. Moyennant quoi, il n'y avait pas de gratuité, il n'y avait pas d'invitation. Et les Parisiens n'ont jamais supporté le fait qu'il n'y avait pas d'invitation, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de rang F pour les huiles. Ils étaient obligés de payer 25 francs comme tout le monde. Et Nordé aussi, il a fait une chose, par exemple, par rapport à cette population... aux populations des quartiers, comme on dit, il a dit, plutôt que de les faire venir, moi, je vais commencer par y aller.
Mais il a creusé quand même un déficit.
Et ce qui fait qu'après, il y en avait des gens. Mais après, ça s'est perdu. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Lui, parti, fini ces gens-là au théâtre. On a recommencé avec une programmation pour Bobo. Parce que c'est la vérité. Moi, j'ai arrêté entre-temps. Heureusement, je suis venu à Montpellier. Mais enfin, moi-même, c'est un théâtre que j'aurais abandonné personnellement.
Non, mais Stanislas Nordé est un ami, c'est un camarade, c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui est venu plusieurs fois dans nos saisons au Théâtre des 13 Vents. Et lui, en tant que gestionnaire, a été, vous savez, il a creusé quand même un déficit. Ce que nous, on a essayé de faire au Théâtre des 13 Vents, c'est sans creuser de déficit, que chacun paie selon ses moyens. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, si vous avez les moyens de payer 24 euros, qui est le prix top au Théâtre des 13 Vents, vous payez 24 euros. Et si vous n'avez pas un sou, vous payez 4 euros. Enfin, bon, voilà, c'est-à-dire l'équivalent de ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on n'a pas un taux d'invitation énorme. Donc, voilà, je crois qu'on est arrivé à quelque chose comme ça. Mais moi, je parlais plutôt de l'esthétique. Je parlais du choix des textes, du choix des spectacles. Et voilà, donc je pense que... Qu'il y a quelque chose à faire, voilà. Parce qu'on parlait des missions des CDN, je crois qu'il y a aujourd'hui une grande réflexion à mener, et si vous voulez, à la direction générale de la création artistique, il y a quelque chose que je trouve actuellement, une dérive que je trouve dangereuse, parce que Michel Aurier a dit à Rennes au mois de janvier qu'il fallait sortir de la dictature du taux de fréquentation, et que ce qui comptait, c'était pas la quantité de public, c'était sa qualité. Alors ça, je trouve quand même...
Ça veut dire quoi?
Eh bien, je ne sais pas, je vous laisse libre d'interpréter, mais enfin, je trouve, enfin, c'est vraiment, il y aurait des gens qui auraient la qualité pour être spectateurs de théâtre public et d'autres pas. Enfin, c'est très, très, très dangereux parce que c'est en contradiction en plus avec le texte de 72 et celui de 95 qui dit bien dans son article premier, on confie une mission de décentralisation dramatique dans le but de réunir le plus large public possible, et notamment de jeunes publics. Donc... Enfin, voilà, c'est pas une dictature de taux de fréquentation, mais qu'est-ce que ce serait qu'un théâtre public privé de public, quoi. Enfin, voilà.
Ben, surtout que refaire ici la Comédie Française, je crois pas qu'il y ait assez de public pour alimenter ça.
Oui, oui, enfin bon, donc...
On aurait du mal.
Donc il y a quand même en ce moment une réflexion sur le théâtre public qui est menée par ce ministère-là, par le ministère précédent, par le ministère de la Culture en général.
Est-ce que vous pensez que c'est une décision politique, votre éviction?
En tout cas, Frédéric Mitterrand, lui qui m'a appelé plusieurs fois depuis cette décision, pense que oui. Pense que c'est un règlement de compte à son égard, dont je suis la malheureuse victime. Parce que vous parlez de ma nomination, mais ma nomination, je suis désolé, elle ne peut pas m'être imputée. Ma nomination, elle n'est pas de mon fait. Ce n'est pas moi qui l'ai organisée.
Je l'ai dit ici à cette antenne. Moi, je vous donnez l'opportunité de dire ce que j'y pense. Je pense, même si je ne suis absolument pas au courant du dossier, moi, je pense que si... la chose n'a pas été bien faite au départ. D'abord, ça m'étonnerait beaucoup que vous soyez pour quelque chose, parce que ce n'est pas vous qui prenez la décision. Déjà, première chose. Deuxième chose, ce n'est pas parce que ça a été mal fait la première fois qu'on doit répéter la même chose.
Et en plus, pardon, mais d'y revenir...
Et puis, troisième chose, si la personne n'a pas démérité, ça ne se fait pas de ne pas la reconduire une deuxième fois. Ça se fait toujours.
Et je voudrais quand même ajouter que ça n'a pas du tout été mal fait, contrairement à ce qui a été dit, puisque, souvenez-vous, il y a eu un premier appel d'offres où il y a eu une première shortlist qui a été annulée par le ministère de la Culture, qui ne voulait pas de Georges Lavaudan à la tête du CDN. Donc, ils ont relancer une procédure et un deuxième appel d'offres. Et moi, j'ai candidaté uniquement dans ce deuxième appel d'offres. Et lors de ce deuxième appel d'offres, il y a eu une shortlist. Et dans cette shortlist...
Et c'était une procédure d'urgence.
C'était une procédure... Non, c'est à partir du moment où il y a eu la shortlist qu'il y a eu une procédure d'urgence, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'oral. On a juste demandé aux candidats de la shortlist, on était quatre, je crois, à faire un projet en trois pages. Voilà, à faire un projet d'urgence en trois pages. Après, il y a eu un projet, évidemment, quand j'ai été nommé, mais il y a eu juste une lettre, on demandait une lettre aux quatre candidats, voilà. En même temps, franchement, Georges Frêche était d'accord avec Frédéric Mitterrand pour que ce soit moi.
Donc, oui. Quel est le rôle de la région exactement
dans, le rôle de la région, il était total. Moi je connais bien comment ça s'est passé, puisque Frédéric Mitterrand me l'a raconté. Il a appelé Georges Frêche et il lui a dit la chose suivante. Georges Frêche, écoutez, franchement, si vous voulez Georges Lavaudan, vous aurez Georges Lavaudan. Mais à votre place, je prendrai Bessé. Voilà. Mmh. Et Frêche a été intrigué, parce que d'une part... moi, j'étais très soutenu par le député-maire de Limoux, dans l'Aude, qui était Monsieur Dupré, qui est un des meilleurs amis de Georges Frêche, et qui lui avait dit « Bessé fait un festival de théâtre qui s'appelle Nouveaux auteurs dans la vallée de l'Aude, qui est formidable. » Voilà. Donc, quand Frêche m'a reçu, il m'a dit ça. Il m'a dit « D'abord, Mitterrand m'a appelé, ça m'a fait plaisir. Et ensuite, mon copain Dupré m'avait dit... prends le petit de Limoux. Alors voilà, il y avait un petit de Limoux, c'était moi, donc il a pris le petit de Limoux. Voilà.
Ça, c'est bien du Frêche, ça, le petit de Limoux.
Je voulais revenir aussi sur une des choses, moi, qui m'a marqué dans la programmation que vous avez faite ces trois dernières années, c'est l'utilisation de la petite salle, qui me semble une excellente idée. On parlait de Stanislas Nordet tout à l'heure, il y a eu un spectacle, moi, qui m'avait marqué, qui avait ouvert la saison l'année dernière, c'est la conférence...
Et la petite salle.
C'était la conférence...
De Christophe Pellet.
De Christophe Pellet, ce qui était une programmation courageuse, parce que c'était quand même un texte qui égratignait quand même pas mal le milieu théâtral établi.
Nous sommes le seul CDN à l'avoir programmé. Et c'était un texte qui, justement, un peu comme la pièce de Lagarce, Les Prétendants, continuer cette idée et pointer les absurdités de ce système du théâtre public français. D'ailleurs, si quand tout ça sera terminé, pour moi, je vous garantis que j'écrirai moi-même une suite à tout ça en écrivant une pièce, comme j'avais fait à l'époque sur Le Milieu des architectes, Ce qui arrive et ce qu'on attend. Là, j'ai vraiment la matière d'écrire aussi une pièce assez drôle. J'ai envie d'écrire une comédie sur le théâtre public français. Quoi. Voilà, oui.
Jean-Marie Besset, je sais que vous avez un train à prendre. Il est 13h, on va faire une petite pause musicale avant de se retrouver avec Gilbert. Et j'ai choisi Dalida. Dalida parce que j'adore Dalida, parce que notre ami Christopher adore Dalida. Et je pense que vous ne détestez pas Dalida. Merci de nous avoir accompagnés.
Ouais, c'est la plus grande Dalida, on la regrette.
Que reste-t-il de nos amours ?
Sans cesse. qu'est-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle d'amour morte devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces une photo, vieille photo de ma jeunesse? Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. De mon passé.
Divergence FM 93.9.
Presque autant de voyeurs que de femmes et d'hommes. Les gens devraient sortir de chez eux et se regarder eux-mêmes, ça les changerait. Oui, monsieur. Ça, au moins, ça serait de la bonne philosophie.
So what we about to do right here is get real G'd up. G-shit.
Girls get dressed for girls, look right, fellas. We just want asses, big titties, and then we like, she look nice. Matter of fact, we look twice to make sure all the girls stay fly, they never wait at the door. Word.
Mais sur un rendez-vous politique, mais dans une boîte de nuit. Donc on continuera à faire n'importe quoi à Divergence.
Il n'y a qu'un communiste pour dire ou penser ce genre de phrase.
Divergence FM.
I push me to the right. Oh Lord.
Divergence FM, le 93.9, avec nos jingles maison, nos célèbres jingles à Divergence. C'est l'émission Vendredi Théâtre. Je suis toujours avec Gilbert Desvaux et nous parlons de la situation des 13 vents. Je suis également avec Tito qui nous a rejoint en cours d'émission. Et juste avant de continuer, j'ai une petite annonce à faire en rapport avec la maison Louis Jouvet, dont on a reçu le directeur il n'y a pas très longtemps. Il va y avoir une lecture, c'est la compagnie Bicéter, donc qui va donner une lecture en espace, mise en espace d'une pièce de Mustapha Benfodil qui s'appelle Clandestinopolis, et ça sera donc le jeudi 20 juin 2013 à 19h à la maison Louis Jouvet, et il faut téléphoner pour réserver. Voilà, c'est dit. Donc Gilbert Desvaux, nous parlons donc du 13 vents, des 13 vents, du théâtre des 13 vents. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est comment ça se fait une programmation. C'est vrai que la première programmation que vous avez faite pour l'année 2010-2011, vous avez eu fort peu de temps pour la faire, puisque vous êtes arrivé début janvier, je crois.
1er janvier.
Voilà, 1er janvier.
Et sans avoir rien préparé.
Une saison, ça se boucle en... Faut que ça soit bouclé fin mars.
Une saison s'est bouclée fin mars. C'est une science qui n'est pas du tout exacte. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer Là, c'est la troisième saison qui se termine, la quatrième que nous annonçons mercredi au public à 16h et 20h30 au 13 vents. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à préparer, à faire ce travail parce que finalement, c'est un peu à chaque fois une espèce de déclaration d'amour. Moi, j'ai une âme de spectateur et j'ai une âme, disons, de directeur ou de producteur quand on est metteur en scène. Quand j'aime quelque chose, j'ai le besoin de le partager avec les autres, avec mes amis, de dire « voilà, j'ai vu tel spectacle, j'adore ça, allez le voir, ça mérite d'être vu, etc. etc. » bon. Et puis souvent, les gens qui ne sont pas du sérail ratent peut-être des spectacles qui se jouent moins longtemps ou qui ne sont pas dans le tourbillon médiatique, etc. Donc, moi, j'aime ça. Et faire une saison, c'est déjà ça. C'est déjà dire au public, voilà les auteurs que nous aimons, voilà les artistes que nous aimons, voilà notre vision du théâtre aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que c'est... C'est pas du tout totalitaire, parce que, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, il y a mille façons de faire du théâtre. On parlait hors micro de la programmation du Printemps des comédiens, que tout le monde salue, nous les premiers. On trouve que Jean fait un travail formidable.
Un Printemps des comédiens assez exceptionnel. C'était oui, pour tout puis, ce que j'ai vu. Et on en parlera plus abondamment la semaine prochaine de tout ce qu'on a vu.
Et c'est vrai que je trouve que c'est alors il y a quelquefois il y a des choses que sur lesquelles des spectacles que sur lesquels qu'on aimerait accueillir et qu'il accueille, ou l'inverse, il y a des choses voilà sur lesquelles on se retrouve, par exemple le spectacle d'Ostermayer, mais il y a aussi des choses qu'il fait...
Le spectacle d'Ostermayer, c'est Les Revenants d'Ibsen.
Les Revenants, voilà, qui est un spectacle que nous, on aurait aimé accueillir dans l'absolu. Mais il y a des choses aussi qu'il peut faire parce qu'il a ce lieu, parce que
c'est un festival. Il y a des contingences matérielles aussi.
Oui, au 13 vents, le Gramont, les 13 vents, c'est un lieu génial, mais c'est un lieu qui a ses contraintes. Mm-hmm. C'est un très beau plateau, génial pour de la création contemporaine, mais il y a certains spectacles qu'on ne peut pas accueillir. Par exemple, lorsque nous sommes arrivés avec Jean-Marie, on a fait la liste des artistes que nous, on voit des... Ça fait 20-25 ans qu'on voit des spectacles. Donc, en arrivant au 13 vents, on a fait une espèce de liste, quels sont les artistes avec lesquels on a envie de travailler. Voilà. Quels sont les auteurs qu'on a envie de produire, quels sont les auteurs qu'on a envie de monter, quels sont les artistes qu'on a envie de d'accueillir, etc. Et c'est vrai que, par exemple, James Thierry, c'est quelqu'un qu'on aurait aimé accueillir. Mmh. Et c'était impossible d'un point de vue technique, parce que Gramont est trop petit. La saison prochaine, la bonne nouvelle, c'est que avec la fin des travaux de l'Opéra Comédie, le Théâtre des 13 vents va retourner, va reprogrammer hors les murs à l'Opéra Comédie deux spectacles. Un spectacle de théâtre seul et puis un spectacle en co-accueil avec Montpellier Danse. Et c'est notamment pour le spectacle de théâtre, c'est une forme qu'on n'aurait pas pu accueillir parce que voilà, il y a certaines productions, je pense à celle du TNP, je pense au spectacle de Laurent Pelly, je pense des metteurs en scène qui voient grand les spectacles qui passent à Chaillot, à l'Odéon, certains spectacles de Luc Bondy, par exemple. Ce sont des spectacles que nous, on pourrait vouloir accueillir. Les 1000 francs de récompense de Laurent Pelly, qui était un spectacle formidable, on n'a pas pu l'accueillir à Gramont, alors que ça rentre très bien à l'Opéra Comédie. Voilà, il y a des contraintes comme ça que Jean peut... Voilà. En tout cas...
Mais sinon, vous avez une liberté totale de programmer ce que vous voulez ? Ou est-ce qu'il y a des impératifs
Non, on a une liberté totale. La DRAC, ni la DRAC, ni le ministère, ni les tutelles, personne ne vient nous dire ce qu'il faut faire. En revanche, après, on parlait du contrat de décentralisation, il y a des objectifs à tenir. Et puis, si on ne faisait que programmer, je ne sais pas quoi, sortir d'une ligne théâtre, sortir d'un répertoire, par exemple, voilà, on a... Sans avoir d'obligation, il y a des espèces de règles implicites. Faire attention aux compagnies régionales.
Voilà, j'allais vous poser
la
question.
Donc ça, par exemple, lorsque nous sommes arrivés, de la région en arrivant, honnêtement, je crois que la seule artiste basée à Montpellier que nous connaissions, c'était Marion Aubert, parce qu'elle elle était au comité de lecture du Rond-Point avec Jean-Marie. Sinon, moi j'ai par exemple Dag Jeanneret, Jacques Allaire, Hélène Soulier, Marie-Josée Malice, Marie Lamachère. Ce sont des artistes que j'ai découverts en arrivant à Montpellier. Et certains avec qui certains avec qui on a des vraies affinités artistiques, certains qui deviennent des amis, et je crois qu'on a été même les gens qui n'aiment pas notre ligne reconnaissent en général, les gens reconnaissent une disponibilité et je pense qu'on fait partie des CDN les plus accueillants pour les artistes en région. À chaque fois, on a 5, 6, 7 projets. L'année prochaine, on va retravailler avec Stéphane Laudier qui travaille sur des formes plutôt légères, très, très littéraires. C'est la deuxième fois qu'on fait un spectacle avec Stéphane. Autour de Pinter. La première fois, c'était autour de Pinter et Camus. Là, ce sera autour de Pinter. Un autre texte. C'est vrai que Stéphane, il a trouvé une forme comme ça de spectacle. Chacun doit trouver sa forme. Stéphane, il est dans des choses plutôt légères. Et vous parliez de la petite salle, voilà, qui s'inscrit parfaitement dans la petite salle, dans le petit Gramont. On va travailler avec Dag Jeanneret, on retravaille avec Jacques Allaire, qui est un des metteurs en scène que je le trouve, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup.
L'année dernière avait fait donc le Bernanos.
L'année dernière, on avait accueilli le Bernanos, on n'était pas du tout à la base de ce projet. Mmh. C'était un projet qui a été produit par Yvon Tranchant, par Seth. Mmh. On l'a vu en la deuxième année, je crois, de création. Et puis sur l'aglo, il est soutenu par Frédéric Musolini. Et puis Jacques, on a beaucoup discuté. On est allé voir le spectacle Bernanos quand il a été repris à Sète. Et on a eu un vrai coup de cœur avec Jean-Marie. Et on l'a programmé quasiment en ouverture de cette saison. Ça s'est très bien passé. Mmh. C'est un très, très beau travail. Et puis Jacques nous a fait découvrir son nouveau projet, et on a dit banco, et on est un des coproducteurs importants qui rendent le projet possible. Et en plus, on s'associe à plusieurs dans l'aglo, vous verrez ça, pour le rendre. Mais pas seulement, il y a les artistes en région, c'est aussi les auteurs. Enfin, la saison prochaine, on arrive à mener à bien un projet avec David Léon et Hélène Soulier qui nous avaient parlé autour d'un texte de David. Et finalement, je me rends compte qu'une des choses les plus difficiles, c'est d'imposer les auteurs vivants, les textes inédits. La facilité, on le voit bien, nous, dans une saison, la facilité, c'est de programmer le répertoire. Et d'ailleurs, pas forcément le répertoire avec des grands metteurs en scène ou des supposés vedettes de la scène, mais le répertoire. Et en tout cas, à Montpellier, le public du Théâtre des 13 Vents, il y a un vrai goût pour le répertoire, qu'il soit porté par des équipes comme Alain Françon, très confirmé, ou bien des jeunes metteurs en scène en devenir, comme Marie Lamachère. C'est des spectacles qui ont rencontré cette année, je pense au Godot de Marie et je pense au Solness d'Alain Françon. C'est des spectacles qui ont rencontré leur public. Après, dès qu'on sort du répertoire, le Pelé cette année, alors vous parliez de la conférence, ça s'était très bien passé, mais c'était une petite jauge, c'était la petite salle, et puis c'est un spectacle qui avait fait du bruit, et puis il y avait la notoriété de Stanislas Nordet qui était moteur.
Qu'on avait reçu à cette antenne.
Voilà, et puis en plus Stanislas, il est venu très souvent avec invité par Jean-Claude Fall, donc c'est quelqu'un qui a ses habitudes ici, mais par exemple dans la saison, une des déceptions, il faut le dire, à l'heure des bilans, c'est la fréquentation du Loin de Corpus Christi de Christophe Pelé, qui était une des obsessions de Jean-Marie en arrivant à Montpellier, c'est d'aider Christophe. Donc, on aura réussi à présenter deux textes, accueillir la conférence, qui a eu du retentissement, et puis produire Loin de Corpus Christi. Et c'est vrai que ça a été une aventure un peu déceptive. Mais pour moi, c'est des déceptions utiles, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur, finalement, de monter le répertoire. Je m'en suis rendu compte cette année en montant pour la première fois de ma vie un classique, en montant le Oscar Wilde. Parce que même si, malgré tout, inconsciemment, le travail du passé, le travail des autres metteurs en scène est là. Il sert à quelque chose. Il y a quelque chose qui reste. On a dans la tête ce qui a été fait. Voilà. Et quand vous abordez un texte inédit, c'est très difficile d'attirer le public par des pièces inédites. Et puis c'est une première fois sur la scène. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire.
On va faire une petite pause musicale avant de se retrouver et j'ai choisi une chanson de Blur, Girls and Boys. We'll be right back. Et oui, Blur, Girls and Boys, vous êtes toujours sur Divergence FM, le 93.9 pour l'émission Vendredi Théâtre. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que le 28 juin, Vendredi Théâtre sera en direct, en extérieur, au Printemps des Comédiens pour une émission exceptionnelle, en public et donc en direct au Printemps des Comédiens. Ça sera de 12h30 à 14h. Voilà, je suis toujours avec Gilbert Desvaux du Théâtre des 13 Vents et nous allons commencer à parler, si vous pouvez nous donner quelques indications sur ce qui nous attend à la prochaine saison. Il nous reste 5 minutes.
Écoutez, ce sera notre quatrième saison. Je crois que ce sera un prolongement des trois autres. Petit à petit, on apprend à programmer. Je crois que nos choix se sont affirmés. On retrouvera certains des artistes que nous aimons et que nous soutenons depuis le début. Je pense à Bruno Gélin, je pense à Jacques Allaire. Mmh. On aura quelques auteurs contemporains francophones vivants, puisque c'est le projet sur lequel Jean-Marie s'appuie. Je parlais de David Léon, je pense à Wajdi Mouawad et je pense aussi à Jean-Marie, puisqu'il a écrit, en étant à Montpellier, il a écrit une pièce qui s'appelle « Le banquet d'Auteuil », qui est une pièce sur la fin de la vie, la fin de la vie un peu douloureuse, solitaire, de Molière, au moment où, c'est peut-être pas un hasard, au moment où Molière se retrouve sans, alors ça s'appelle pas des subventions, mais sans les dotations du roi, et puis abandonné par ses amours. Donc une pièce comme ça, à la fois très, très, très réjouissante, parce qu'elle met en scène... un groupe le groupe des amis de Molière qui sont tous ce qu'on appelle des libertins, les libertins de l'époque, les descendants de Cyrano de Bergerac, l'auteur, pas le personnage de...
Magnifique spectacle cette année, Cyrano de Bergerac était une merveille.
Et nous retrouverons la saison prochaine Benjamin Lazare.
Dans quel texte ?
Dans une exploration de Pantagruel, de Rabelais.
Oh.
Voilà. Il ne sera pas en scène, mais il est aux manettes et ça fait partie des metteurs en scène comme Bruno Gélin, que nous souhaitons accueillir tous les ans. Et donc ce banquet d'Auteuil c'est la pièce que Jean-Marie avait en tête depuis longtemps. Il a profité de son passage à Montpellier pour l'écrire, pour la finir. Et on va en faire une présentation en janvier 14. Voilà, et puis...
Une programmation, ça fait combien de spectacles exactement ?
Ça fait 24 spectacles.
Ah oui.
On arrive, tous les ans, on arrive à avoir à peu près 110 représentations dans les murs. Voilà, avec en général les créations de la maison. La saison prochaine, on va les jouer 10 fois. Ce sera mon spectacle, une pièce d'Edouard Albi que je vais créer avec notamment Xavier Gallet. Pièce qui s'appelle La Maison Elzo,
Oui,
qui est une nouvelle version de Zoustory. Voilà, qui ouvrira la saison. Et en général, on arrive à faire 4-5 représentations des spectacles.
Edouard Albi, on va rappeler que c'est l'auteur aussi de Qui a peur de Virginia Woolf.
Voilà, c'est l'auteur de Qui a peur de Virginia Woolf et qui est encore vivant et qui est peut-être le plus grand auteur dramatique vivant aujourd'hui. Qui est à mon avis absolument un génie absolu et dont on va explorer son œuvre en début de saison, notamment en présentant La Maison Elzo, mais pas seulement. Il y aura une lecture d'une autre pièce et puis un partenariat avec le Diagonal qui nous permettra de voir ou revoir Qui a peur de Virginia Woolf. Voilà.
Je vois que l'heure tourne. La présentation publique, ça sera donc le 19, si je ne m'abuse.
La présentation publique, c'est le 19. Et nous pourrons tout raconter, tout dire. C'est 24 ou 25 spectacles. Et c'est à 16h ou à 20h30. À 16h, c'est suivi d'un apéritif, plutôt d'un goûter. Et à 20h30, c'est la fête, c'est l'apéritif. Voilà.
Gilbert, merci de nous avoir accompagnés avec Jean-Marie Besset pour ce Vendredi Théâtre. On va se retrouver, nous, la semaine prochaine et on parlera du Printemps des Comédiens, de ce que nous avons vu, des très belles choses que nous avons vues les uns et les autres. Tout ça avant le direct du 28 juin. Très bonne semaine théâtrale à tous et on va se quitter avec un vieux truc que j'ai retrouvé dans mes archives, un truc des années 80 qui s'appelle « This is not a love song ».
Merci à Divergence et merci pour cette émission.